La dernière fois qu'on avait jasé avec Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, il nous avait dit « Hey les boys, le 5 mai, encerclez cette date-là là, sur le calendrier, là, on va annoncer un candidat dans Arthabasca. » Ça s'est fait officiellement hier et nous, ben, on l'avait pris en note. Puis on l'avait booké pour y jaser ce matin.
Oui, là, on s'était dit, on va booker ce nouveau candidat dans Arthabasca. Va falloir parler au responsable des communications du Parti conservateur du Québec qui va nous dire, mais qui est ce candidat? On n'avait jamais pensé que ce serait Éric Duhaime en personne.
Surprise, surprise, ou pas? Éric Duhaime est le nouveau candidat dans Arthabasca pour les élections partielles. Il est au bout du fil. Monsieur Duhaime, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là avec nous ce matin, comme promis. Dans le fond, la dernière fois qu'on s'était jasé, on avait encerclé le lundi 5 mai. Est-ce que ça a été un choix facile, M. Duhaime, de vous présenter dans Arthabasca?
Bien, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un bon candidat qui était là la dernière fois, Tarek Yenout, qui avait quand même fait 25% des votes, qui était très apprécié de la communauté, puis qui continuait à s'impliquer. Donc, c'était moi, spontanément, je pensais même que c'était lui qui allait être notre candidat, sauf qu'on a consulté nos membres, on a sondé la population, et puis ce qu'on a retenu, là, c'est que les conservateurs se disent, gars, on est 530 000 au Québec, on n'a aucun député sur 125 à l'Assemblée nationale, même si on a 0 sur 125, alors qu'on représente une personne sur 7, c'est pas normal. Assurez-vous de prendre le candidat qui a le plus de chances de gagner. Puis après avoir consulté des militants et la population, on est arrivé à la conclusion, Tarek et moi, que c'était moi qui avais le plus de chance. On a, puis d'ailleurs, c'est lui qui m'a présenté puis qui est mon meilleur bénévole présentement.
Oui, d'ailleurs, M. Duhaime, à quel point une victoire dans Arthabasca, c'est une victoire importante pour vous et le parti?
Ben, c'est un game changer, là, comme on dit en bon québécois, là, c'est-à-dire que ça va me donner beaucoup plus de visibilité à moi et au parti. Ça va peut-être même nous permettre d'attirer d'autres députés, parce que il y a beaucoup de députés là, qui ont vu ce qui est arrivé avec Claire Samson quand elle a traversé et qui est devenue la première députée conservatrice à l'Assemblée nationale, comment elle a été traitée par le gouvernement et par les autres partis. C'est difficile quand t'es tout seul contre tout le monde. S'il y a un chef qui est déjà là, qui vient de se faire élire, qui a l'approbation de la population, ça va être beaucoup plus facile, je pense, pour moi, dans mon opération de maraudage, d'aller chercher d'autres députés. Ça va aussi nous donner un momentum à un an des élections. C'est le bon temps pour partir un momentum. Là. Rappelez-vous que le Parti québécois a eu le momentum tout de suite après la dernière campagne électorale. Mm-hmm. Puis là, tranquillement, la ballonne dégonfle. Habituellement, c'est mieux de faire le contraire en politique. Là. C'est mieux de partir en mouton puis finir en lion. Donc, je pense que ça pourrait nous donner un momentum très important là, en vue de l'élection générale qui aura lieu à l'automne 2026.
À cet effet-là, est-ce que vous discutez toujours avec le député indépendant Youri Chassin, par exemple, pour qu'il puisse intégrer les rangs du Parti conservateur du Québec?
Mais j'ai toujours discuté avec Youri Chassin parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien avant la politique. On était à l'Institut économique de Montréal ensemble il y a plusieurs années. Je continue à lui parler régulièrement. On a même collaboré ces derniers temps sur certains dossiers et je continue à lui parler. Mais je parle aussi à d'autres députés à l'Assemblée nationale. Particulièrement de la CAQ. Là. Ben, écoutez, je vais regarder mes conversations privées, mais je me cache pas que j'en fais. J'ai toujours dit que je faisais du maraudage, mm-hmm. puis j'en ai fait, puis ça a même été un moment donné, ça a été un succès parce que Claire Samson, c'est comme ça qu'elle s'est joint à moi. Et j'ai l'intention, là, surtout si je suis élu, je pense que ça va me donner le vent dans les voiles pour aller chercher plus de députés. Là.
Pour Arthabasca, la semaine passée, vous avez fait une sortie en disant que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, parlait des deux côtés de la bouche, puis que s'il croyait tant que ça en la démocratie, ben il devrait vous laisser un peu la voie libre dans Arthabasca. Puis on a répété ça pas mal dans les derniers jours, puis même hier, on a parlé de François Legault, que s'il croyait à la démocratie aussi, ben il devrait peut-être le montrer. Je serais le premier à penser qu'en effet, Éric Duhaime et le Parti conservateur méritent une place à l'Assemblée nationale, mais la démocratie, c'est pas à quelque part de laisser les citoyens d'Arthabasca de décider si vous êtes bon puis si vous faites un bon travail. Les candidats vont vous envoyer. Je la comprends pas, celle-là, de demander quasiment aux autres partis de laissez-moi aller.
J'ai pas rien demandé aux autres partis. Ce que je souligne, là, c'est le fait qu'on a un chef du Parti québécois qui est un visage à deux faces. Ce gars-là, à la dernière élection, puis après la dernière élection, a dit que c'était inacceptable que les conservateurs aient 530 000 votes, puis 13 % des votes, puis qu'il n'y ait aucun député à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé la distorsion démocratique. Il a même dit qu'il fallait tout faire pour que le Parti conservateur soit représenté à l'Assemblée nationale. À la première occasion qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire de la politique, puis il fait passer des intérêts partisans avant ses grands principes. Je trouve que c'est un gars qui veut toujours paraître comme le genre parfait, mais quand tu regardes comment il agit concrètement, c'est probablement l'un des pires.
Ben, présenter un député, c'est pas de...
Ben, je veux juste vous rappeler que le Parti québécois, là, quand Gabriel Nadeau-Dubois a été élu co-porte-parole de Québec solidaire, le PQ a décidé qu'il respectait l'étiquette puis il présentait pas personne contre lui dans le coin. La même chose, le Parti québécois a déjà bénéficié de ça. Quand Pauline Marois elle s'est présentée dans Charlevoix une élection partielle comme chef du Parti québécois à son retour, ben il y a personne du Parti libéral qui s'est présenté contre elle. Puis M. Plamondon lui-même, quand il a jonglé avec l'idée de se présenter dans la circonscription en 2021 de Marie-Victorin à Longueuil, dans la région de Montréal, le Parti libéral et la CAQ attendaient de savoir s'ils se présentaient ou non avant de savoir si ou non eux autres allaient présenter des candidats. Fait que je trouve que M. Le Plamondon, il parle des deux côtés de la bouche en même temps. Il a le droit de se présenter. Puis à moi, ça me fait plaisir. On va les battre. Puis ça, on va être encore plus légitime démocratiquement de le faire de cette façon-là. Mais je ne pouvais pas ne pas souligner son manque de cohérence.
M. Duhaime, d'ailleurs, peut-être expliquer pour le bien des auditeurs, comment c'est difficile pour un parti de pousser ses pensées, ses idées, ses enjeux quand on n'a pas une place à l'Assemblée nationale?
Ben, c'est-à-dire que eux, ils ont des scrums à tous les jours, ils ont l'accès aux médias, ils peuvent poser des questions au gouvernement, ils peuvent déposer des projets de loi, ils peuvent aller dans les commissions parlementaires, ils peuvent déposer des motions. Moi, c'est tous des outils politiques que j'ai pas. Puis malgré ça, malgré le fait qu'on a zéro député, zéro budget de recherche puis de communication, hein, Québec solidaire a 3 millions, le Parti libéral a 5 millions, les partis qui ont le même nombre de votes que nous, là. Et malgré ça, s'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de votes comme conservateurs que Québec solidaire, qui a 12 députés, qui a 3 millions de budget de recherche, puis qui a tous les outils dont je viens de vous parler. Fait que je pense que nos idées sont fortes, et si on avait en plus le tremplin de l'Assemblée nationale, notre appui dans la population serait encore beaucoup plus fort.
On parle beaucoup du PQ depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est votre principal adversaire dans Tabasco? C'est une course à trois avec la CAQ qui peut s'en mêler également?
Bien, c'est ça. Les sondages disent que c'est une lutte à trois entre la CAQ, nous et le Parti québécois. Évidemment, ça va dépendre quand est-ce que l'élection va avoir lieu. Moi, je pense qu'elle va avoir lieu plus tôt que tard pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça serait la chose aussi élégante, M. Legault, de faire. T'sais, regardez ce qui se passe à Ottawa, là. Pierre Poilievre va se présenter dans une circonscription en Alberta parce qu'il a été battu dans sa circonscription.
Ouais, puis Mark Carney va lui laisser le champ libre.
Puis non seulement il va lui laisser le champ libre, il a dit « je vais tout faire pour que l'élection se fasse le plus rapidement possible parce que c'est pas acceptable qu'il soit pas à l'intérieur du Parlement ». J'aimerais que M. Legault ait la même élégance et le même respect des règles démocratiques.
M. Duhaime, quelles sont les priorités ou les enjeux dans Arthabasca?
Il y en a plusieurs. D'abord, il y a l'hôtel Dieu d'Arthabasca, qui est l'hôpital principal, là, où on avait annoncé en grande pompe, là, la CAQ avait annoncé des investissements de 360 millions. Et là, on apprend au cours des derniers jours que les investissements sont menacés parce qu'ils, comme un peu comme ce qui s'est passé à Maisonneuve-Rosemont ou dans un paquet d'autres hôpitaux au Québec, là, la CAQ est en train de reculer parce qu'ils sont cassés comme des clous, puis ils ont trop dépensé, puis ils ont trop dilapidé l'argent des contribuables. Et là, ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes dans la région. Je pense que ça, c'est un dossier important. Évidemment, il y a des dossiers qu'on retrouve ailleurs au Québec. Là, la crise du logement frappe fort là-bas aussi. Hein. Le coût du logement a monté très rapidement. Les jeunes ont pratiquement plus accès à la propriété. Pour moi, ça, c'est inacceptable. C'est une priorité. Il faut faire quelque chose avec ça. L'autre élément, là, c'est on parle d'un c'est un Québec, ça, Arthabasca, là. C'est un Québec qui se lève tôt, qui travaille fort et qui nourrit le Québec. Hein. Beaucoup d'agriculteurs, des gens dont on entend peu parler, mais qui travaillent excessivement fort. Et je pense que c'est important que ces gens-là soient représentés. Les quatre chefs, les quatre autres partis proviennent tous de la région de Montréal. Ça serait bien d'avoir un chef qui vient d'un autre Québec. Et ça, je pense que c'est un élément important parce qu'il y a des enjeux qui sont très différents. C'est quand on parle de la taxe carbone, par exemple, parce que j'en ai parlé la dernière fois que j'ai été vous voir, là. Ben, je veux dire, quand tu habites à Saint-Ferdinand, il n'y en a pas de métro, puis il n'y en a pas d'autobus, puis de transport en commun. Là. Donc, quand tu prends l'essence pour ta famille, puis pour faire ton épicerie, puis pour aller travailler, t'as pas le choix. Puis quand tu vois que tu payes 25-30 sous le litre de plus parce que tu fais imposer des taxes vertes par les quatre partis à l'Assemblée nationale, ben ça fait pas ton affaire. Et ces gens-là, ils ont malheureusement pas, on les entend beaucoup moins, ils sont un peu moins bruyants que les grands centres. Puis je pense que c'est important qu'un chef provienne de ce Québec-là.
Vous avez parlé ce week-end du Parti conservateur du Canada qui va devoir justement modifier son discours au Québec pour aller chercher plus d'appui. Comment Éric Duhaime fait, lui, pour aller chercher les appuis avec un discours conservateur?
Ben, je pense qu'il faut ramener ça dans la réalité du monde. Il faut toujours trouver les enjeux qui préoccupent les gens. Hier, j'ai parlé de France que j'ai rencontré au Tim Hortons samedi après-midi pendant que je faisais des biscuits sourire. Là, elle est venue me parler de sa réalité à elle. Là. C'est une mère de 3 enfants qui travaille comme une folle. Tu sais, elle se promène entre la garderie, l'école, le travail, la maison, tout ce que les parents connaissent, là, les devoirs le soir, les bains, la bouffe. Elle se couche épuisée le soir. Elle a l'impression de travailler comme une folle. Puis il reste de moins en moins d'argent. Cette année, elle pourra même plus prendre 2 semaines pour faire du camping avec ses enfants parce qu'elle n'a plus d'argent. Son hypothèque a monté de 200 $. L'épicerie monte à toutes les semaines et ces gens-là sont étouffés puis ont l'impression que le modèle québécois ne fonctionne plus.
Donc, vous allez vous concentrer vraiment sur la classe moyenne là, avec cette élection-là.
Moi, je pense que c'est ça. C'est à ces gens-là, c'est aux Français de ce monde qu'il faut parler parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui ont ce sentiment-là. Puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de politiciens qui les écoutent, encore moins qui leur proposent des solutions.
Monsieur Duhaime, on a parlé de l'importance d'une victoire dans Athabasca pour le parti et pour vous. Ça serait quoi l'impact d'une défaite pour vous et pour le Parti conservateur du Québec?
Ben là, si vous le permettez, je vais laisser les citoyens d'Arthabasca voter avant de commenter les résultats. Je pense que c'est... Puis il reste, on va passer un mois à aller à la rencontre des gens. Moi, je travaille pas pour perdre l'élection, je travaille pour la gagner. Puis vous me connaissez, je suis déterminé. Ouais. Je pense que les Québécois apprécient ça hein, aussi. Il y a beaucoup de gens qui disaient, là, Duhaime, il restera pas après les élections, étant donné qu'il n'a pas fait élire de député. Puis moi, au contraire, j'ai vu ça comme un défi. Tu sais, des fois, quand on a des échecs dans la vie, on peut voir ça comme des défis ou comme des éléments qui nous écrasent. Moi, ça me motive. Et je pense que les Québécois apprécient cette persévérance-là, puis qu'on réalise qu'on est là pour les bonnes raisons. Et je pense qu'on va être récompensé dans Athabasca.
En terminant, Éric Duhaime, on entend beaucoup le PQ dire avec le déficit de 13,6 milliards, on est en train de faire une tournée du PQI pour voir vraiment les projets en importance. Le Parti libéral dire on a déjà remis l'économie puis les finances publiques à jour sous l'air Philippe Couillard, on va le faire encore. Et QS parler d'austérité. Le Parti conservateur du Québec, qu'est-ce qu'il fait avec un déficit de 13,6 milliards de dollars?
Mais on fait la même chose que ce qu'on a promis en campagne électorale. Le Parti québécois aujourd'hui qui se scandalise de ça, je veux juste vous rappeler que s'il était au pouvoir, selon leur propre programme, on dépenserait 8 milliards de plus cette année. Donc, le déficit sera encore beaucoup plus élevé. Là. Nous, on était de loin le parti qui proposait de réduire le plus les dépenses et on continue à penser que c'est la façon de faire. On veut réduire la taille de la fonction publique de 20 000 postes. On veut éliminer graduellement les subventions aux entreprises, fini les Nordvolt, les Lions électriques, les Taiga de ce monde. Donc, un gouvernement du Parti conservateur, c'est un gouvernement qui veut donner plus de liberté de choix, plus d'argent dans les poches des contribuables puis moins de dépenses publiques. C'est ça l'ADN du Parti conservateur. C'est pas un sondage qui nous fait changer d'idée. Pour nous, c'est notre raison d'être.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup pour la jasette ce matin.
Ça a été très agréable. Merci à vous. Au revoir.
Salut.
À bientôt. Donc, c'est officiel, Éric Duhaime qui se lance et se présente dans Arthabasca.
On comprend que l'adversaire est le PQ.
Oui.
Il a pas parlé de la CAQ.
Il dit qu'il ne demande pas aux autres partis de présenter personne, mais il demande quasiment explicitement aux autres partis de présenter personne. C'est ça que je trouve particulier.
Oui, en effet.
Il me semble qu'il est assez clair pour, après ça, pas dire que c'est pas ça qu'il fait. Tu sais, assume-le. C'est ça que tu fais. Tu demandes aux autres partis de présenter personne contre toi. Fine. Assume-le. Parce que là, on dirait que c'est comme... Non, mais là, je parle des deux côtés de la bouche. Il a dit ça, mais là, il présente quelqu'un quand... Fait que tu demandes de pas présenter personne. Sois clair, dis-le.
Est-ce que le Parti conservateur du Québec va pouvoir arrêter la lancée du Parti québécois qui a gagné les élections partielles, tant Jean Talon ici et du côté de Terrebonne aussi? Là?
Et c'est une des raisons pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon présente quelqu'un, même s'il avait dit le contraire. Il ne veut pas du tout... stopper sa lancée. Éric Duhaime l'a bien dit, je trouve, dans l'entrevue, quand il a dit « Faut pas que tu partes trop tôt en politique. » Le PQ est parti très tôt avec l'élection partielle dans Jean Talon 2023, alors que des élections étaient 3 ans plus tard. Garder ce momentum-là en politique, ça tient pratiquement du miracle. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, avec Arthabasca, a une chance en or de poursuivre le momentum de Jean Talon en 2023, de Terrebonne au début 2025. C'est pour ça qu'il ne veut pas rater sa chance.
On l'a dit un petit peu plus tôt qu'on allait jaser. C'est assez spécial quand même ce matin, mais fidèle à l'image de Rage Against le matin, qu'on allait jaser avec trois politiciens de trois partis différents au provincial. On vient de faire Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec. Sol Zanetti de Québec solidaire un petit peu plus tard. Et après la pause, on jase délai d'attente immigration avec Jean-François Roberge.
Oui, pour justement les personnes immigrantes qui sont en attente dans la catégorie de regroupement familial. Et on va encore une fois parler évidemment des demandeurs d'asile et de comment le Canada gère ces nombreuses demandes là, qui sont en augmentation.
Restez là, vous êtes à Rage Against le matin. Bien sûr, à Boulevard Saint-Denis. Rage.